Merci d'assister à ce premier atelier. Nous allons parler là, pendant une demi-heure de la performance du modèle entreprise adaptée avec différents témoignages. Un témoignage de dirigeant d'entreprise adaptée, du dirigeant d'entreprise adaptée que je suis, et également un témoignage client au travers de nos deux interventions. Je suis donc Sylvain Coutier, président d'une entreprise adaptée qui s'appelle ATF Gaïa. Et je suis accompagné lors de cette présentation de Jean-Marc Bastide, qui est donc responsable du service achat de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vous montrer, dans le cadre du modèle entreprise adaptée et dans les relations que nous entretenons aujourd'hui avec un certain nombre de grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, mais comment l'entreprise adaptée, quelle est sa proposition de valeur et comment elle va se différencier finalement d'un fournisseur, dit entre guillemets classique. Donc peut-être en préambule, je vais resituer moi, le contexte au travers de l'exemple d'ATF Gaïa, puisqu'on intervient forcément sur un secteur d'activité particulier qui nous est propre. Donc ATF Gaïa est une entreprise qui a un statut d'entreprise adaptée depuis 2008, mais qui s'appuie aujourd'hui sur une expérience de 20 ans, puisqu'on a fêté nos 20 ans donc cette année. L'entreprise aujourd'hui compte 80 salariés, dont 45 travailleurs en situation de handicap. A réalisé pour l'année 2015 un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros. Et notre activité, c'est d'être une entreprise des services du numérique qui est spécialisée dans toute la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et télécoms. C'est-à-dire qu'on intervient, alors on a un métier d'origine qui était la gestion de fin de vie, donc de racheter les matériels dans les entreprises lorsque celles-ci le renouvellent. Et donc avec effectivement des services de collecte, de traçabilité, d'effacement de données. Et notre véritable cœur de métier, c'est de faire du réemploi, c'est-à-dire de reconditionner ces matériels pour pouvoir les remettre sur le marché, soit via des sites e-commerce et des solutions grand public, soit de manière en adressant un marché B2B, que ce soit sur du matériel complet ou sur la fourniture de pièces détachées. Pour donner quelques chiffres, l'entreprise serait environ pas loin de 200 000 matériels par an et avec un taux de réemploi qui est de l'ordre de 61%. Justement, quand on parle de cette proposition de valeur et des relations particulières, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation, que l'on entretient avec nos grands donneurs d'ordre, ça nous a amené à réfléchir avec eux et de s'appuyer véritablement sur une relation qui dépasse la simple relation client-fournisseur. On peut parler, je pense, de partenariat et qui nous a permis aujourd'hui de proposer des offres de services, mais qui n'ont finalement plus grand-chose à voir avec notre métier d'origine, puisqu'aujourd'hui, on est remonté en amont dans l'exploitation du cycle de vie. Et on présente et on propose également aujourd'hui des prestations de support technique où on a un certain nombre de techniciens qui sont des personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, mais qui sont chez nos clients et qui vont faire de l'assistance technique, du helpdesk sur du hardware ou voire sur certains aspects software. Alors là, on n'est plus du tout dans la fin de vie, on n'est plus du tout sur la partie fin de vie, recyclage et réemploi. On est en plein dans l'exploitation du cycle de vie au moment où les machines servent aux clients. Et puis, on est encore remonté un petit peu plus en amont, puisqu'aujourd'hui, également, il nous arrive d'intervenir sur le début de chaîne, c'est-à-dire où on va, par exemple, masteriser des matériels neufs en vue d'être déployés chez nos clients. Alors après, selon la localisation géographique, on va pouvoir également assurer une partie de ce déploiement. Mais ça montre bien que ces services-là, aujourd'hui, on peut les proposer parce qu'on y a réfléchi en commun et que ce sont nos clients, à un moment, qui nous ont dit « mais globalement, ce que l'on fait ensemble, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller un peu plus loin dans cette démarche ? » Et c'est véritablement cette réflexion et cette relation commune qui a permis d'aboutir aujourd'hui à une offre de service qui nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne et d'intervenir sur l'ensemble du cycle de vie, donc que ce soit au déploiement des matériels neufs jusqu'à la gestion de fin de vie qui, encore une fois, reste notre métier historique. Un point important avant d'aborder effectivement la proposition de valeur et pour mettre en avant la performance de l'entreprise adaptée. Le prérequis, mais ça, il est assez facile de le comprendre, comme toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son statut, et ce n'est pas propre au monde du handicap, le prérequis, effectivement, c'est d'être compétitif, que ce soit en termes d'offres commerciales et de prix, en termes de délai de réalisation de cette prestation, et puis en termes de niveau de service. Ça, c'est vraiment le prérequis. Si ces trois composantes-là n'existent pas, je dirais que globalement, il n'y a pas lieu de discuter derrière. Une fois que cette condition-là est remplie, effectivement, l'entreprise adaptée, de par sa situation et sa position au sein de l'économie sociale et solidaire, est à même de pouvoir proposer un certain nombre d'éléments différenciants que je vais vous présenter maintenant. Donc effectivement, je pense que parmi l'assistance et en règle générale, on va plutôt adresser aujourd'hui une cible de grands donneurs d'ordre, qui soient encore une fois publics ou privés, des administrations, donc par conséquent des collectivités, et puis également effectivement des entreprises de taille intermédiaire. Un point important, et j'y reviendrai également un petit peu plus tard, c'est que l'entreprise adaptée, de par son modèle, va impacter toutes les strates de l'entreprise. D'un point de vue purement factuel et contractuel, la relation se passe, ça c'est valable aussi pour les entreprises classiques, mais généralement avec une direction achat et avec le service concerné. Pour ce qui nous concerne, et d'ailleurs ce sont les petits pavés en rouge, c'est très spécifique à notre propre activité. Tous les autres pavés, finalement, concernent l'ensemble des entreprises adaptées, quelle que soit leur activité et donc quels que soient les secteurs dans l'entreprise auxquels on s'adresse. Généralement, effectivement, la proposition de valeur va être purement économique. Mais encore une fois, sur cet aspect-là, je reviens à ce que je disais précédemment, ça passe par la qualité de la prestation et la qualité de l'offre de l'entreprise adaptée. Ça va s'inscrire pour les services achats dans le cadre des politiques d'achat responsables. C'est le thème du salon et donc là, on est forcément en plein dedans. Donc ça va concerner à la fois également cette proposition de valeur, la direction achat, mais également la direction financière. Après, ça va avoir des impacts, effectivement. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, ce sont les directions informatiques, les directions systèmes d'information. Et dans le cadre de notre activité, on va valoriser ce matériel informatique. Donc, il y a une équation économique qui va être en faveur du client, c'est-à-dire qu'on va lui permettre, comme je vais le développer à la suite, de faire baisser cette contribution à GFIP ou FIPHFP, selon qu'on est privé ou dans l'ordre privé ou dans l'ordre public. Ça va permettre, évidemment, la mise en conformité partiel avec l'obligation d'emploi liée à la loi handicap, donc de faire mécaniquement baisser la contribution à GFIP ou FIPHFP. Ça va permettre également, avec la nouvelle loi Grenelle 2, la mise en conformité avec les nouvelles obligations en matière de RSE. Et puis, encore une fois, là, spécifiquement à notre activité, la mise en conformité sur la réglementation concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, quand je parlais d'aspect financier, au travers d'une grande entreprise, finalement, l'économie à GFIP, au travers du chiffre d'affaires d'un grand groupe, c'est finalement assez peu impactant. Donc, ça veut bien dire que la proposition de valeur, elle est aussi sur d'autres aspects. Et là, on le voit, il y a l'aspect financier, qui est de toute façon, somme toute, à prendre en ligne de compte. Mais ça va impacter également, effectivement, la partie RSE, qui aujourd'hui devient de plus en plus prépondérante dans les grands groupes, puisqu'il faut produire, dans le rapport social et environnemental, un certain nombre d'indicateurs. Et notre rôle va être de pouvoir mettre en avant, justement, de rendre visible finalement tout ce qui ne l'est pas de prime abord. On reste dans une relation contractuelle où voilà, on nous demande de réaliser une offre. En face, on va y mettre un prix, on va y mettre des ressources. Mais cette décision, généralement, a d'autres impacts qui ne sont pas forcément visibles et dont notre tâche, finalement, c'est de rendre ça visible. Et là, j'en arrive finalement sur le dernier point. Ça concerne l'image de l'entreprise, aussi bien dans sa communication interne que dans sa communication externe. Donc on le voit, on va adresser l'ensemble des strates. Pour certains, ce sont des décideurs. Pour d'autres, j'emploierai le terme sponsor. C'est surtout vrai, effectivement, au niveau des responsables RSE, développement durable, mais également au sein de la DRH et de la mission handicap, direction diversité. Et puis, effectivement, les validateurs, qui sont les services juridiques. Et donc, on se rend bien compte. Quand je parlais effectivement, véritablement, peut-être ce qui va différencier le modèle entreprise adaptée dans sa performance, c'est qu'elle va véritablement être au barycentre des intérêts de l'ensemble des directions. On a souvent pour habitude d'opposer dans les structures les achats ou la production avec le commerce. Ben là, pour le coup, l'entreprise adaptée est capable de proposer une offre qui va vraiment dans le sens des intérêts de tout le monde. Il n'est pas précisé sur le graphique que vous voyez là, sur le diagramme, mais bien évidemment, ça passe aussi par une impulsion forte d'une direction générale. Alors soit effectivement parce qu'elle sera convaincue par ces différents services, soit parce que ça sera une volonté de sa part et cette volonté redescendra par capillarité sur l'ensemble des directions. Et avant de céder la parole à Jean-Marc Bastide, moi, il y a une chose qui me choque dans la relation qu'on entretient avec nos grandes entreprises, c'est que, encore une fois, ça va au-delà de la simple relation client-fournisseur. Et je pense que nous, bien évidemment, on a besoin de clients pour assurer la pérennité de notre modèle. Et on est dans un modèle où on donne du sens à notre action. mais j'ai le profond sentiment que ce sens que l'on donne à notre action, il est également valable pour les gens qui prennent la décision, comme je dis, pour les gens qui appuient sur le bouton. Quand une personne décide de nous vendre son parc informatique, pardon, je reviens à notre exemple, nous, notre rôle, c'est de lui dire, voilà, vous avez pris cette décision-là a des conséquences, et quelles sont les conséquences qu'elles vont avoir dans notre activité? Pour nous, c'est la pérennité des emplois qu'on a créés, voire souvent la création de nouveaux emplois. Donc, encore une fois, on adresse des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, qui sont sans formation. Donc, ça va nous permettre de remettre en situation d'emploi des personnes qui en sont éloignées, de les professionnaliser. Et donc, effectivement, ça, au départ, dans une décision, ce n'est pas forcément ce qui apparaît. Et notre rôle, c'est justement de dire, dans le cadre, alors ça apparaîtra dans un rapport RSE, mais c'est de dire, votre décision, voilà les conséquences humaines qu'elle a. Et qu'encore une fois, le sens de cette action et de cette action commune, c'est simplement de mettre du sens dans son quotidien. C'est valable pour nous, mais je pense que c'est tout aussi valable pour les clients. Et ça, c'est un élément fort. Encore une fois, à partir du moment où il y a ce prérequis au départ, c'est-à-dire qu'on est légitime, crédible et qu'on est considéré avant tout comme des professionnels. Je crois que le mot aujourd'hui et le but de ce salon-là, c'est vraiment de montrer aujourd'hui qu'il existe une diversité de services dans le monde du handicap, que ce soit dans le secteur protégé au travers des ESAT ou dans le secteur adapté au sein des entreprises adaptées, mais qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a des entreprises qui sont référentes et qui sont des acteurs reconnus sur leur marché, derrière, effectivement, il y a des véritables éléments différenciateurs qui ne sont pas que économiques, qui ne sont pas qu'en termes d'image, aussi bien en interne qu'en externe, mais qui simplement permettent à tout à chacun de donner beaucoup plus de sens dans son action. Voilà. Sébastien, je vous laisse la parole.
C'est formidable, c'est formidable. Mais on vit une époque formidable, puisqu'en fait, les dernières paroles de M. Courtier, finalement, c'est qu'on va moraliser des personnes morales. C'est quand même extraordinaire. Bon. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau du groupe BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Personnellement, donc, je suis responsable d'achat de Banque Populaire Rive de Paris. Et on a donc dans le groupe agi déjà depuis 2004 avec une première charte qui était une charte phare, donc politique, handicap et achat responsable. Ça a été la première étape qui a cherché à mettre, je dirais, parmi l'ensemble des banques et des caisses du groupe, instaurer un certain nombre de politiques se tournant vers le secteur adapté et protégé. Ensuite est venue la deuxième période, qui était la période donc, de moralisation des personnes morales, où là, on a introduit pour la RSE donc un deuxième programme qui s'appelait Agir. Donc, c'était Agir ensemble, avoir à la fois des bonnes pratiques, aider effectivement l'insertion locale, donc le développement local, et, entre autres, effectivement, intensifier ce travail avec le secteur adapté et protégé. Dans ce contexte-là, effectivement, dans ce contexte-là, effectivement, le groupe BPCE et notre banque, on a fait plusieurs choses. Alors, comme c'est tout petit là, je vais me lever parce que je ne vois rien. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, effectivement, au niveau du groupe, c'était les deux programmes dont on vous a parlé, effectivement, Phare et Agir, qui sont des programmes donc globaux. Et puis, au niveau de la banque, c'était plusieurs choses. Donc, c'était d'abord le constat qu'on avait un pourcentage d'emplois directs qui, finalement, on n'avait pas à en rougir, un peu plus de 4%, mais par contre, un taux d'emploi indirect qui était beaucoup plus faible. Et donc, la volonté d'améliorer ça. À partir de là, on a instauré plusieurs choses, des choses qui sont très traditionnelles, quelquefois, par exemple, la gestion des espaces verts, de certains sites administratifs avec un ESAT, le vidéocodage de chèques, donc avec un autre ESAT. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait et qui permet, entre autres, de dire deux mots sur ce qui est ce que j'appelle, moi, la convergence objective d'intérêt. C'est-à-dire que cette partie-là, par exemple, de vidéocodage de chèques, s'est fait en partenariat avec un des grands faiseurs de la place, ce qui présente l'avantage, entre autres, de garantir la prestation globale. Souvent, le problème, quand on se tourne vers le secteur adapté et protégé, en tant qu'acheteur ou en tant que donneur d'ordre, c'est qu'on a peur. Donc, n'ayez pas peur. Il faut effectivement ce montage-là, si vous pouvez, faites-le, par exemple, par rapport ou avec vos sous-traitants habituels. Et une partie de la sous-traitance, un lot ou une part, vous la prenez en co-traitance. Ce qui veut dire que le sous-traitant principal, lui, va être capable de garantir globalement la réalisation. et vous fournirez aussi du travail à un des établissements du secteur adapté et protégé. Typiquement, par exemple, là où on est sur du traitement de flux, le flux est fait ou n'est pas fait. Si à midi, donc il est confié à 8 heures le matin, si à midi, l'ensemble des chèques qui sont dans le flux ne sont pas traités, le donneur d'ordre, enfin le faiseur principal, reprend ce flux-là et le fait traiter par ses ateliers habituels. Ce qui veut dire qu'on a une garantie à 100% de réalisation. Donc pour le client final, il n'y a aucun risque. Pour l'entreprise de la place, elle améliore sa prestation, puisqu'elle offre en fait une prestation qui n'est plus la prestation classique. Elle a son catalogue, une prestation en collaboration avec le secteur adapté et protégé. Et puis pour le client final, ben lui, il améliore effectivement son taux d'emploi indirect. Donc c'est vraiment là du gagnant-gagnant, c'est une convergence objective d'intérêt. On a aussi donc dans le même cadre le traitement de la D3E informatique avec ATF Gaïa, où là par contre on s'est adressé à une entreprise après mise en concurrence, puisqu'on a des procédures internes qui nous obligent à faire de la mise en concurrence. On a donc comparé plusieurs entreprises et puis on a confié effectivement ça à ATF Gaïa, qui l'a remporté dans la mesure où aussi, au-delà du prix, le mieux disant, c'est quelquefois aussi la partie donc, de RSE qui est associée. Le dernier point que l'on a mis en place, c'est une cafétéria solidaire. Apparemment, il y a un petit problème dans mon truc. Donc, on a effectivement une cafétéria solidaire qui est tenue par un ESAT. Et là aussi, on retrouve ce même phénomène de partenariat entre le milieu, enfin, le secteur adapté et protégé et une entreprise de la place, puisque dans cette cafétéria, en fait, on s'est adressé au restaurateur qui tient le restaurant d'entreprise, le restaurant inter-entreprise de l'immeuble, qui donc a fait un monitorat et un tutoring de l'ESAT qui nous a fourni son personnel. Et en l'occurrence, il s'agit de l'ESAT Berthier. Donc, on voit dans les différents cas que vous avez des cas qui sont des cas, je dirais, très classiques aujourd'hui, qui sont au catalogue de la plupart des établissements du secteur adapté et protégé. Je pense par exemple les espaces verts, je pense effectivement des gestions de cafétérias, des gestions de traiteurs, des gestions effectivement aussi de blanchisseurs. La blanchisserie aujourd'hui, dans certains cas, si vous avez une conciergerie ou autre, ils savent le faire aussi très bien. Donc là, il n'y a aucun problème. Et on peut avoir aussi des montages qui sont des montages un peu plus sophistiqués, un peu plus ouverts et qui permettent dans ce cadre-là d'avoir effectivement des intervenants, souvent tripartis. Je crois que le contrat tripartite est quelque chose qu'il faut chercher.
Alors, je me permets juste d'apporter un complément d'information à ce que vous dites. Effectivement, on voit au travers des exemples qui ont été évoqués par M. Bastide, bien qu'on a, on va dire, des activités qui sont des activités historiques, alors des entreprises adaptées, notamment aux ESAT, qui étaient avant aussi ateliers protégés. Et puis, on voit de plus en plus aujourd'hui aussi de nouvelles activités. Et donc, bien évidemment, je sais que vous êtes là pour ça, mais effectivement, découvrir aujourd'hui ces nouveaux métiers, pour donner un exemple sur les entreprises adaptées, plus de 80% des créations depuis 5 ans sont vers des métiers de service, alors qu'historiquement, on était plutôt sur des métiers orientés vers la sous-traitance industrielle. Vous allez avoir un panorama aujourd'hui de ces entreprises ici. Je vais laisser la conclusion à M. Bastide, mais venez nous voir. Venez dans nos structures, venez voir comment on travaille, venez voir comment les gens travaillent. Je pense que dans beaucoup de cas de figure, vous serez agréablement surpris. Un dernier point également, on parlait de contrats tripartites. Aujourd'hui, la co-traitance est quelque chose qui se développe beaucoup dans le monde de l'entreprise adaptée. Encore une fois, pour pallier, pour rassurer nos clients, parce qu'encore une fois, la structure moyenne d'une entreprise adaptée aujourd'hui, c'est moins de 40 salariés. Donc, quand on est confronté à des appels d'offres nationaux et face à des grands donneurs d'ordre, on n'a pas forcément tous la capacité à pouvoir répondre à un appel d'offres national. Donc, on sait travailler dans des filières en GME, on sait mutualiser nos compétences dans des métiers identiques, dans différentes régions de province. On sait travailler en co-traitance aujourd'hui, notamment, je vais parler d'un domaine qui est en pleine expansion dans le monde du handicap, qui est le domaine du service numérique et des sociétés de services. Aujourd'hui, il y a des très beaux exemples de co-traitance. Donc voilà, ce sont des choses qui se développent. N'hésitez pas à être effectivement exigeant. Mais encore une fois, je pense que vous serez dans l'ensemble des cas surpris par la qualité de réponse que peut proposer aussi bien le secteur protégé que le secteur adapté. Monsieur Bastide, je vous laisse la conclusion.
Oui, non, c'est simplement ce qu'on peut dire, c'est que je pense que dans ce secteur-là, on est passé d'une économie qui était une économie de charité à une économie de concurrence. Et très clairement, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait mettre en concurrence des entreprises du secteur adapté et protégé avec, effectivement, pour principe, n'ayez pas peur. Il n'y a aucun problème, de toute façon, il n'y a pas de risque. Vous avez le savoir-faire, il faut rajouter en plus le faire savoir, et ce sera effectivement là du gagnant-gagnant. Utiliser la convergence objectif d'intérêt, c'est-à-dire essayer de favoriser effectivement un partenariat tripartite avec un faiseur, un gros faiseur qui vous portera et qui permettra effectivement d'avoir une, je dirais, un niveau de taille qui soit comparable, d'accord, puisqu'on s'adresse souvent à des structures qui sont effectivement petites. Aller vers le secteur adapté et protégé, c'est évident, si vous êtes là, vous n'avez plus qu'un pas à faire, faites-le, et apprenez à les connaître et choisissez vos partenaires. Apprenez à les connaître, je pense que c'est bien de visiter ces établissements-là. Très souvent, on étudie des dossiers, alors je parle en tant qu'acheteur, je suis un vrai rond de cuir, c'est-à-dire qu'on prend un dossier, on estime, on voit, on compare, on met avec une chose merveilleuse des temps modernes, le tableau Excel, on compare à plus, moins, et puis et on s'éloigne complètement de la réalité. Parce que la réalité derrière, c'est des humains, c'est des gens. Et on voit effectivement derrière qu'est-ce qu'il y a dans ces ateliers, qu'est-ce qu'il y a dans ces entreprises, et finalement, combien porte. Sachez quand même que l'ensemble du milieu, je dirais, du handicap, est porté principalement, j'allais dire presque exclusivement, mais principalement par des associations, par voie associative. Je dirais l'EME, l'établissement médico-éducatif, l'EMPRO, les ESAT, les entreprises adaptées, il y a de la bonne volonté. Ne gâchons pas la bonne volonté. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Encore une fois, sur en complément, aujourd'hui, dans la notion, je parle pour les entreprises adaptées, dans le mot entreprise adaptée, il y a entreprise et qu'aujourd'hui, 90% des créations d'entreprises adaptées se font sous forme juridique commerciale, donc SARL, SASAS. Donc on est véritablement dans le cadre de véritables entreprises. Je trouve que la réglementation est parfois un peu confuse puisqu'on a l'impression de rester un peu au milieu du guet. On parle du milieu ordinaire. L'entreprise adaptée est dans le milieu ordinaire. Si on devait faire une comparaison avec les entreprises que vous représentez, on parlait d'entreprise classique, mais l'entreprise adaptée a les mêmes fonctionnements que n'importe quelle. Vous l'avez très bien évoqué. On est sur un marché concurrentiel. Si on n'est pas performant, comme je dis, on n'est pas invité. Si à la fin de l'année, on ne génère pas de rentabilité, eh bien, on a des soucis avec nos partenaires financiers. Et comme toute entreprise, on est susceptible de déposer le bilan. Donc, on est également... Alors, effectivement, on a des éléments différenciants de par la qualité, enfin, de par la... l'origine des personnes que l'on accueille et leur histoire. C'est généralement des gens qui ont été accidentés de la vie de manière très majoritaire. C'est ce qui compose nos structures. Mais ça ne les rend pas moins performantes. Et pour reprendre une phrase d'Albert Jacquard avait pour coutume de dire on ne parle pas d'être handicapé, mais d'être autrement capable. Et voilà, une fois qu'on a franchi ce pas et qu'on a enlevé cette notion de peur, effectivement, je pense que la relation avec le secteur du handicap sont des relations extrêmement enrichissantes. Voilà.
Si vous aviez des questions éventuellement.
Oui, c'est l'occasion pendant qu'on est là et pendant que vous êtes là, n'hésitez surtout pas à nous poser la moindre question. Le plus dur, c'est de se lancer. Hein. Il faut qu'il y en ait un qui démarre et après, généralement.
Bonjour. Je me posais une question pour Monsieur Coutier. Vous fournissez un service qui est aux entreprises qui est performant, utile, qui répond à des besoins réels chez les entreprises clientes, et vous disiez qu'il était nécessaire évidemment que vous soyez compétitif. Est-ce que vous avez des moyens de... Est-ce que vous disposez de subventions comme peuvent en disposer des entreprises d'insertion ou... est-ce que l'organisation optimale de votre entreprise vous permet directement d'être compétitif au même niveau que des entreprises qui n'auraient pas le fonctionnement d'entreprises adaptées ?
Alors, oui, bien évidemment, comme les entreprises d'insertion, l'entreprise adaptée fonctionne en contrat triannuel avec l'État, pour lequel, effectivement, on touche un certain nombre de subventions. Ces subventions s'appellent notamment, pour la principale, l'aide au poste, et elle vient pallier le surcoût que génère l'emploi très majoritaire de personnes en situation de personnes fragilisées. Je vais donner déjà un exemple. Le principal surcoût que l'on a en entreprise adaptée avec la majorité des gens que l'on accueille, c'est de l'absentéisme et de la productivité. En règle générale, l'absentéisme dans les entreprises oscille aux alentours de 5%. En entreprise adaptée, la moyenne est à 14%. Ce qui veut dire qu'effectivement, on parle d'équivalent taux plein. Hein. Moi, pour donner un exemple, on a aujourd'hui des subventions qui sont donc ces aides au poste. On a 45 ou 46 personnes qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On a 32 aides au poste. Et globalement, c'est ce qu'on consomme. Ça veut dire que sur le Delta, ben, on a des arrêts longue durée qui sont conséquents. Ça a un impact, bien évidemment, sur l'absentéisme, un impact sur la productivité. Donc ça, c'est notre fonctionnement, mais on le sait dès le départ. Donc c'est le jeu et on s'adapte en conséquence. Donc le premier surcoût important, c'est la productivité et l'absentéisme. Le second, c'est l'encadrement supplémentaire. Adressant des personnes majoritairement fragilisées, on va avoir un encadrement plus conséquent avec des tuteurs, avec des services RH. Moi, si je prends ATF Gaïa, depuis qu'on est 30 personnes, on a créé un service RH, ce qui n'est pas le cas dans des PME forcément de 30 personnes, voire même d'une taille au-delà de ça. Et puis, le dernier point, c'est de l'adaptation au poste de travail. Bien évidemment, si on veut faire baisser l'absentéisme et qu'on veut, on va dire, maintenir un taux de productivité, parce que ce n'est pas le tout de prendre des engagements vis-à-vis de grands donneurs d'ordre. Après, il faut respecter les engagements que l'on a pris. Et donc, ça passe effectivement par de l'aménagement de postes de travail qui va éviter l'aggravation des pathologies et qui va nous permettre de pouvoir réaliser la prestation qu'on nous a demandée. D'une manière générale, aujourd'hui, ce que l'on constate, au-delà de la forme juridique que j'évoquais tout à l'heure, c'est également effectivement la proportion de ces subventions dans le chiffre d'affaires des entreprises adaptées a tendance à baisser. On estime aujourd'hui qu'il est aux alentours de entre 20 et 25% encore, si on fallait faire une moyenne, mais pour une raison évidente, c'est qu'on n'a que 10 ans de recul aussi par rapport à la loi de 2005, puisque avant 2005, on était vraiment dans du médico-social, dans des structures uniquement de forme associative. Qu'aujourd'hui, ça a évolué. Maintenant, encore une fois, on a une tendance qui est à la baisse. Je vais prendre l'exemple. Chez ATF Gaïa, les subventions, c'est moins de 5%. Ou c'est 5% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, même si on n'est pas entreprise adaptée, n'importe quelle entreprise aujourd'hui, quel que soit son secteur, entre toutes les différentes aides et subventions qu'il existe au niveau des départements, des régions, de l'Europe, etc., globalement, si, à condition qu'elles aient le temps de pouvoir se consacrer à cette recherche, mais globalement, avoir 5% de subventions dans son chiffre d'affaires, c'est accessible à n'importe quelle entreprise. Tout ça pour dire que effectivement, on est bien sur cette notion de compétitivité et que, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de se servir de ces subventions pour faire du dumping. Une prestation, elle est à réaliser, que ce soit par une entreprise classique ou par une entreprise du monde du handicap, elle a un prix. Et ça serait, je trouve, dévaloriser le travail de nos salariés que de dire, parce qu'effectivement, je touche des subventions, je vais vendre moins cher. Non, je vends, il y a un prix, c'est un prix marché. Maintenant, et en plus, effectivement, derrière, il y a un certain nombre d'éléments différenciateurs. On reste bien, encore une fois, sur la notion de professionnalisation, de légitimité et de qualité de l'offre. À partir du moment où c'est acquis, derrière, effectivement, le fait de travailler avec une entreprise, comme le disait monsieur Bastide, il y a des éléments différenciants. On a affaire à l'humain et qu'encore une fois, voilà, il y a tout un tas de petites choses cachées qui donnent du sens et charge à nous, effectivement, de mettre ces aspects en valeur. Mais la subvention est nécessaire parce qu'on a des surcoûts. Mais effectivement, c'est pas un élément différenciant dans le cadre de nos relations avec nos clients.
Moi, je prendrais la parole de l'autre côté de la barrière, en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, on a des procédures, nous, qui nous imposent d'analyser et de mettre en concurrence dès qu'on est à plus de 8000 euros et d'avoir une traçabilité visible par l'audit, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accusation de favoritisme. Dans ce cadre-là, je peux vous garantir que déjà, le fait d'avoir recours au secteur adapté et protégé induit en coût total un bonus qui, généralement, est entre 8 et 12% d'unités bénéficiaires. C'est-à-dire que si vous choisissez une prestation qui est essentiellement une prestation de main-d'œuvre, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter de la papeterie ou des choses comme ça, parce que bon, mais une prestation qui est à forte connotation de main-d'œuvre, vous savez que de toute façon, par les unités bénéficiaires, vous récupérez entre 8 et 12%. Et derrière, je peux vous citer quelques cas où la mise en concurrence a démontré avec un distributeur sur des achats, en l'occurrence, d'alimentation de matériel informatique, qu'on avait de base un prix qui était inférieur en passant par le broc de nos amis ATF Gaïa, que nous ne serions jamais assez remerciés.
Merci de votre attention et puis bon salon.